Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Dans Espérance aujourd'hui, nous apportons un regard biblique sur des sujets d'actualité.
Aujourd'hui, nous poursuivons notre série de discussions abordant le thème de la paix. Tout au long de cette série, Étienne, le pasteur d'une église se trouvant à Mulhouse, en France, nous fera part de ses réflexions.
Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de la guerre et de la paix. Nous sommes conscients que nombreux sont nos auditeurs qui ont traversé dans leur pays des périodes de conflits armés. Et certains se trouvent confrontés à ce problème aujourd'hui même encore. Que penser de la guerre? Existe-t-il une perspective chrétienne? Est-il possible pour un chrétien de s'engager en tant que militaire? Jésus a-t-il quelque chose à dire sur ce sujet? Étienne, bonjour, et par où voulez-vous commencer?
Bonjour Yann, et bonjour à tous. Après la Première Guerre mondiale de 14-18, beaucoup crurent que ce serait la dernière des guerres, tant elle fut épouvantable, meurtrière et atroce, laissant derrière elle des millions et des millions de morts dans son sillage. Beaucoup pensaient qu'après de telles atrocités, il serait inconcevable que les nations acceptent de se battre à nouveau. Or, l'histoire de ces dernières années nous a prouvé et nous prouve encore que l'homme n'a retenu aucune leçon du passé. Jésus, connaissant le cœur de l'homme, nous apprend « Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne vous effrayez pas, car tout cela doit arriver d'abord, mais la fin du monde ne viendra pas aussitôt après. »
Cela ne veut dire pas pour autant que Jésus approuve la guerre.
Non, pas du tout. Jésus constate simplement que la guerre représente une réalité humaine qui marquera inévitablement le cours de notre histoire. Les guerres se déclarent à cause d'hommes méchants qui, assoiffés de pouvoir, désirent dominer une nation ou plusieurs nations par la force. D'autres conflits armés se déclarent parce que certains pensent pouvoir redresser des injustices et des torts en ayant recours à la force et à la violence. Pour Jésus, la guerre représente une tragédie humaine, car elle n'engendre que souffrance et misère. La guerre reste un mal, porteur de malheur.
Mais l'État n'a-t-il pas le devoir de défendre les citoyens contre tout agresseur ?
Il est vrai qu'un pays peut se trouver dans l'obligation de se défendre contre un agresseur. Cela n'enlève pas le fait que la guerre est toujours un mal. De plus, la loyauté première du chrétien devrait être envers le Seigneur Jésus et non envers son État. Le chrétien est d'abord et surtout citoyen du royaume de Dieu et ensuite citoyen de son pays. Réfléchissons sobrement sur l'enseignement de Jésus à ce sujet.
Qu'est donc l'enseignement de Jésus ?
Nous allons lire un texte bien connu, il s'agit de Matthieu au chapitre 5, les versets 38 à 45.
« Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil, dent pour dent. Eh bien moi je vous dis, ne résistez pas à celui qui vous veut du mal. Au contraire, si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut te faire un procès pour avoir ta chemise, ne l'empêche pas de prendre aussi ton vêtement. Et si quelqu'un te réquisitionne pour porter un fardeau sur 1 kilomètre, porte-le sur 2 kilomètres avec lui. Donne à celui qui te demande. Ne tourne pas le dos à celui qui veut t'emprunter. Vous avez appris qu'il a été dit, « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. » Eh bien, moi je vous dis, aimez vos ennemis, et priez pour ceux qui vous persécutent. Ainsi, vous vous comporterez vraiment comme des enfants de votre Père Céleste, car lui, il fait luire son soleil sur les méchants aussi bien que sur les bons, et il accorde sa pluie à ceux qui sont justes comme aux injustes.
Certains diront que ces paroles visent les relations humaines au niveau personnel, et qu'elles ne s'appliquent pas à des situations de guerre. Qu'en dites-vous ?
Je suis d'accord pour dire que Jésus parlait de nos relations avec les hommes. Toutefois, je pense que le contexte en Israël à ce moment-là nous permet d'ajouter que ces paroles s'appliquaient aussi à une situation de conflit armé.
Pouvez-vous expliquer pourquoi ?
Nous ne devons pas oublier que le peuple d'Israël vivait sous l'occupation militaire de l'Empire de Rome. L'ennemi du texte était tout aussi bien le militaire romain que le voisin hargneux. Nous ne devons pas oublier non plus que certains en Israël prônaient la résistance armée. Les Zélotes, par exemple, menaient des actions, des guérillas, contre les militaires romains. Ils organisaient des petits guet-apens, des assassinats d'officiers. Dans la foule devant Jésus, il devait certainement se trouver des zélotes, des personnes engagées dans la lutte armée. D'autres devaient se demander s'il fallait les rejoindre. Beaucoup aussi espéraient que Jésus deviendrait, avec la puissance de l'Éternel, l'instrument d'un soulèvement armé qui mettrait l'occupant romain dehors. Voici dans quel contexte Jésus adressa ces paroles.
C'est vrai que ce contexte jette une lumière nouvelle sur ce discours. Cette situation ressemble beaucoup à celle qui existe dans de nombreux pays de nos jours. Certains vivant sous un régime qu'ils considèrent injuste ou tyrannique peuvent éprouver parfois le désir et la volonté de s'y opposer en ayant recours à la force et à la violence.
Oui, ce sont des remarques pertinentes, mais j'espère, Yann, que nous comprenons tous que les paroles de Jésus nous enseignent tout autre chose.
Pouvez-vous vous expliquer davantage?
D'abord, même si les foules avaient tendance à pousser Jésus à devenir le libérateur militaire, Jésus, de sa part, n'a jamais cédé à cette tentation qu'il a toujours désapprouvée. Plus tard, lorsque Jésus fut confronté à l'injustice des autorités juives et romaines, il ne s'y est jamais opposé en ayant recours à la force, même si nous savons qu'il aurait pu faire appel à ses armées d'anges dans les lieux célestes.
Donc il est important de prendre en considération l'exemple de Jésus.
Oui, abordons maintenant le discours prononcé par Jésus que nous avons lu tout à l'heure. J'aimerais résumer la leçon essentielle de ce discours en deux phrases. Ce résumé s'appliquera à toute situation de conflit et de violence, qu'elle soit à l'échelle personnelle ou nationale, voire internationale. Voilà donc la leçon à retenir. D'abord, l'enseignement de Jésus nous appelle à briser le cercle vicieux de la violence. Ensuite, comment sortir de l'engrenage de la violence? Selon Jésus, il faut non seulement s'abstenir d'avoir recours soi-même à la violence, mais il faut aussi aimer son ennemi et lui faire du bien. L'apôtre Paul a, lui aussi, fait un bon résumé de ses enseignements. Il a écrit à l'église de Rome « Ne répondez jamais au mal par le mal. Cherchez au contraire à faire ce qui est bien devant tous les hommes. » Ne vous laissez jamais dominer par le mal. Au contraire, soyez vainqueur du mal par le bien.
Je constate que notre temps s'est écoulé, mais ces questions méritent que nous en discutions encore pour y entrer plus en profondeur. Nous y reviendrons donc dans notre prochaine émission d'Espérance aujourd'hui.
Nous venons d'aborder le thème enrichissant de la paix. Et nous pouvons remarquer en tant que véritable paradoxe que ceux qui œuvrent pour la paix rencontrent souvent l'opposition. Nos méditations bibliques conduites par Antoine vont porter sur ce sujet. Elles se basent sur les paroles de Jésus, trouvées dans Matthieu, chapitre 5, versets 10 à 12.
Heureux ceux qui sont opprimés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous quand les hommes vous insulteront et vous persécuteront, lorsqu'ils répandront toutes sortes de calomnies sur votre compte à cause de moi. Oui, réjouissez-vous alors et soyez heureux, car une magnifique récompense vous attend dans les cieux.
Pour introduire notre méditation sur ces versets, il est nécessaire de connaître à qui ces paroles sont adressées, c'est-à-dire qu'il faut nous poser la question « Qui sont les bénéficiaires d'une telle bénédiction ?» Cette question est essentielle pour éviter tout malentendu, donnant à certaines personnes la fausse assurance d'être sous la faveur de Dieu. À qui donc Jésus parlait-il en déclarant « Heureux sont les opprimés ?» Il nous faut revenir sur le contexte de cet événement donné quelques versets auparavant. Ainsi, nous lisons « Jésus, voyant ses foules, monta sur une colline. Il s'assit, ses disciples se rassemblèrent autour de lui et il se mit à les enseigner. Nous constatons donc que Jésus s'adressait à ses disciples. Ainsi, le verset lui-même montre que l'oppression, la maltraitance et la souffrance dont il est question sont celles subies parce que l'on est simplement disciple de Jésus. Autrement dit, la bénédiction promise par le Seigneur Jésus est réservée aux chrétiens qui souffrent parce qu'ils sont enfants de Dieu. Nous ne pouvons pas le nier. L'oppression, l'injustice et la maltraitance sont présentes dans ce monde. Or, nombreux sont ceux qui subissent de tels malheurs sans être pour autant de véritables chrétiens. On peut être victime d'injustice parce que l'on est pauvre, parce que l'on est une femme, pour des motifs raciaux, politiques ou religieux. Toutefois, il ne faut pas alors en conclure que parce que l'on subit l'oppression ou la violence des hommes, alors l'on se trouve sous la faveur de Dieu. Cela ne signifie pas non plus que Dieu demeure indifférent à de telles personnes. Non, pas du tout. Les prophètes de l'Ancien Testament dévoilent la pensée de Dieu et ils montrent clairement que Dieu dénonce tout acte d'injustice ou d'oppression, qu'il soit exécuté par l'État, un groupe de personnes ou par un individu. De même, Jésus déclare apporter une bonne nouvelle aux pauvres et aux opprimés. Dieu désire leur donner sa faveur et sa bénédiction, mais il la réserve à ceux et à celles qui deviennent disciples de Jésus-Christ. Un disciple de Jésus-Christ est une personne qui s'engage à suivre Jésus et à reconnaître en lui le Sauveur et le Roi de l'univers. Le disciple est donc celui qui a reçu le salut offert par Jésus et qui permet à Jésus de gouverner et de diriger sa vie. Un disciple peut souffrir à cause de son engagement pour Jésus-Christ, et c'est à de telles personnes que la promesse d'une bénédiction particulière est adressée.
Remercions Antoine et Étienne pour leur participation. Ils seront de retour la prochaine fois pour aborder encore ces thèmes de la paix et de l'opposition. Nous vous encourageons donc à écouter notre prochaine émission d'espérance aujourd'hui.
En attendant, nous prions l'Éternel pour qu'il vous aide à tenir ferme devant l'opposition et l'injustice auxquelles vous pouvez être confrontés.
Sur ce, nous vous disons au revoir.
Et que Dieu vous bénisse.